Santé.
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 C'est bon pour la 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 santé.
Bon mercredi, bonjour. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, nous, on va bien, on est prêts pour ce 60 minutes de C'est bon pour la santé, Marianne Paquette, qui vous accompagne. Et aujourd'hui, à travers l'émission, bien, on profite de la Semaine nationale des proches aidants qui se déroule depuis dimanche dernier, et ce jusqu'au 12 novembre, pour discuter avec notre chroniqueuse France Cardinal-Remette. Elle est infirmière, auteure, enseignante, auteure d'ailleurs d'un livre qui est très utile, très en lien avec cette chronique, « Quand la vie se fragilise, un guide pour vous ». Et vos proches aidants. Donc, avec elle, on jase de cette question délicate, des questions délicates qui peuvent survenir, également des décisions lorsque un de nos parents est atteint d'une maladie grave. On parle aussi de comment la musique peut être au service de la santé, comment elle peut nous aider à passer à travers la maladie. Et on pose ces questions à Alain Trudel qui, lui, a été confronté à cette question. Il est un survivant du cancer. Également célèbre tromboniste et chef de l'Orchestre symphonique de Laval. Aussi, on parle de rétinopathie diabétique, une maladie qui atteint la rétine, qui est la principale complication liée au diabète, et d'une découverte qui pourrait constituer un nouveau traitement, de l'espoir aussi en ce qui a trait à la prévention, avec deux chercheurs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Mike Sapia et Frédéric-Antoine Mallette. Puis, dans quelques instants, du côté de Québec, on joint Nathalie Parent, psychologue, afin de parler d'anxiété chez les enfants et les adolescents. Tout ça, mais avant, on jase un petit peu avec Anne-Laure Janson. Elle nous présente qu'est-ce qui a retenu son attention, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en lumière en ce qui a trait à l'actualité santé de la semaine. Bonjour Anne-Laure Janson.
Bonjour Marianne.
On ne parle pas de ces élections américaines. Point. On sait que c'était pas très bon pour la santé. On s'est couché tard et ça a généré beaucoup d'anxiété. On parle plutôt de d'autres nouvelles liées à la santé, notamment du côté de l'Université de Sherbrooke, qui a de bonnes nouvelles pour des personnes atteintes de problèmes de santé mentale et leurs proches.
Oui, principalement un public jeune. En fait, l'Université de Sherbrooke aura son propre centre d'expertise en santé mentale grâce à une contribution de 1,5 million de la Banque Royale. Un des objectifs est de permettre aux familles de réduire le nombre de portes où elles doivent cogner pour trouver des services lorsqu'un jeune présente des problèmes de santé mentale. Alors on sait, les problématiques sont variées. On peut penser notamment à l'anxiété et à la dépression. Au Québec, 28% des personnes de 15 à 24 ans présentent un niveau de détresse psychologique élevé. Et au cours des 10 dernières années, le nombre de jeunes estriens souffrant d'anxiété, de dépression, de déficit d'attention a quant à lui doublé. Alors face à ces constats, l'Université de Sherbrooke a pris les devants. Et le projet permettra à 4 facultés de conjuguer leurs efforts et leurs expertises. Différentes cliniques universitaires de l'université pourront du même coup accentuer leur maillage, favorisant la promotion, la prévention des troubles de santé mentale et le dépistage précoce.
Est-ce que ça touche que les gens qui sont près de l'Université de Sherbrooke, les gens de l'Estrie, ou ça va ratisser un petit peu plus large? Est-ce qu'on sait ça?
Ben, je pense qu'il y avait un besoin dans la région en particulier, donc ça va rayonner autour de Sherbrooke.
Oui, parce qu'il y a plusieurs organismes qui sont liés à cet engagement-là. On poursuit maintenant. Vous allez nous parler de leucodystrophie. Qu'est-ce que c'est ça?
Oui, alors les leucodystrophies, ce sont un groupe de maladies génétiques qui affectent la myéline, qui est aussi appelée la matière blanche du système nerveux central. Ce sont des maladies dégénératives qui sont mortelles à court ou moyen terme. Et il y a 10 ans, les parents d'Alexis Verville-Tailleur mettaient sur pied la fondation Leucodystrophie dans le but de trouver un remède à la maladie de leur fils. Aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal a trouvé un traitement prometteur. Alexis, aujourd'hui âgé de 17 ans, doit suivre ses cours allongés sur une civière à l'école. Oui. Sa mère, Marjolaine Verville, explique que sa leucodystrophie ressemble à la sclérose en plaques, en fait, de symptômes. Alors, l'équipe de chercheurs a, en fait, découvert les gènes de la forme québécoise de la maladie et entrevoit maintenant la possibilité d'un traitement. L'équipe veut aller chercher des cellules souches de la moelle osseuse des patients pour en faire des cellules productrices de myéline, les analyser en laboratoire, voir comment elles se développent. Probablement qu'elles agiront de façon défectueuse comme dans le cerveau des enfants. Et avec une compagnie de biotechnologie, l'équipe tentera de corriger l'erreur génétique dans ces cellules. La chercheuse Geneviève Bernard et son équipe ont bon espoir de passer de la recherche en laboratoire à la recherche chez les humains d'ici 5 ans.
Beau sujet pour C'est bon pour la santé.
Exactement.
Ça. Maintenant, un œil bionique qui récolte un certain succès du côté de Londres.
Oui, premier implant de l'œil bionique de la start-up française MedTech, un succès. Pixium Vision, qui a mis au point Iris 2, a annoncé hier que cet œil bionique, implanté en septembre avec succès sur un patient au Royaume-Uni, et a été menée en fait lors de l'étude européenne multicentrique en France, en Allemagne, en Autriche et en Espagne. C'était donc sur un patient atteint de rétinite pigmentaire et celui-ci a pu déclarer avoir eu une première perception lumineuse. Alors les avantages d'Iris 2 par rapport à la technologie américaine en fait qui existe également. Il s'agirait d'une une meilleure résolution d'image, la possibilité de retirer aisément l'implant ou encore la réduction drastique du temps nécessaire à la chirurgie. L'implantation a été réalisée par le docteur Mai Mukit, qui se joint à Pixium Vision dans un communiqué pour se réjouir de cette opération réussie. Le système du patient a été activé, il a déclaré avoir eu cette première perception lumineuse. Selon le protocole, le patient va dès à présent suivre une rééducation afin d'apprendre à interpréter les nouveaux signaux lumineux. Intéressant.
Oui, oui, tout à fait. Et en effet, ça suscite l'espoir. Et en terminant, naître et grandir nous rassure en nous disant que le mensonge est une phase qui peut être normale dans le développement de notre enfant.
Oui, c'est ça. Souvent, les parents s'inquiètent quand leurs jeunes enfants de 3 à 5 ans ne disent pas la vérité car ils craignent que cette attitude reflète le caractère des petits. Mais non, rassurez-vous. Ces enfants sont bien connus pour déformer la vérité. Ils ne sont ni rebelles ni méchants, ils sont simplement en train de traverser une phase de développement. Pourquoi mentent-ils ? Pour faire des blagues, pour jouer, pour cacher la vérité, éviter une réprimande. Parfois, ça peut camoufler une faible estime de soi. Mais ces fabulations témoignent de leur monde imaginaire qui cédera peu à peu sa place à la pensée concrète, bien enracinée dans la réalité. En tant que parent, il est important que vous considériez les mensonges comme des occasions d'apprentissage au lieu de les considérer comme un problème. Dire la vérité est quelque chose qui s'apprend progressivement au fil des années. Ce n'est pas quelque chose que les petits savent faire dès 3 ans. Alors, quelques conseils. Écoutez d'abord pour donner confiance à votre enfant. Aidez-le à comprendre la différence entre l'imaginaire et la réalité. Montrez-lui que vous comprenez que certains mensonges sont en fait des souhaits. Par exemple, s'il dit qu'il n'a pas cassé la vitre, mais qu'on sait que c'est lui qui l'a cassé, on peut lui dire « mais je sais que tu voudrais que ce ne soit pas arrivé, je suis certain que tu ne l'as pas fait exprès, mais c'est bien toi qui l'as cassé ». Cherchez une solution au lieu de le blâmer, demandez-lui par exemple « maintenant que la vitre est cassée, qu'allons-nous faire ?»
La vérité, ça s'apprend, on le découvre à travers cet article, mais parfois aussi ça s'oublie. Avec le temps, on peut penser à certains adultes. Mais on rappelle toutefois, Anne-Laure, que Naître et grandir, c'est un site formidable pour les parents, pour les familles, qui répond à de nombreuses questions, et ça dans plusieurs phases du développement de l'enfant. Si vous avez un souci, vous avez besoin de réfléchir, d'avoir une réponse, là, c'est vraiment une ressource très, très fiable.
Tout à fait.
Merci, Anne-Laure Janson.
De rien.
Bonjour Nathalie Parent.
Bonjour Marianne.
Vous êtes psychologue et là pour nous parler de l'anxiété chez l'enfant, chez l'adolescent. C'est normal de ressentir l'anxiété, l'adulte en ressent. On en a ressenti beaucoup au cours de la nuit en suivant les élections américaines. L'enfant en ressent aussi. On s'intéresse bien sûr aujourd'hui à lorsque ça devient un problème. Tout d'abord, Nathalie, comment on départage l'anxiété saine et lorsque ça devient un trouble d'anxiété?
Bien, en fait, dans le développement de l'enfant, il y a des étapes qui font partie de l'anxiété, au sens où l'anxiété fait partie du développement, donc à mm-hmm. certains moments de la vie. Mais quand ça devient un trouble, c'est quand ça dure au-delà de 6 mois, puis que ça crée une détresse importante chez l'enfant. Donc l'enfant ou l'adolescent est pris avec ça, on le sent souffrant, et que ça dure vraiment au-delà de 6 mois. 4 semaines quand il est question d'une anxiété de séparation.
Mm-hmm.
Donc, il y a ça. Et aussi quand ça affecte différentes sphères de sa vie. Donc, l'enfant va s'empêcher de faire des activités, de voir des gens, que ça va affecter ses résultats scolaires, sa vie sociale, son sommeil. Donc, quand ça affecte différentes sphères de sa vie, ça dure plus de 6 mois et qu'il y a une détresse importante, là, on parle vraiment plus d'un trouble.
Ce sont les mêmes paramètres chez les adolescents?
Oui, tout à fait.
Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des symptômes? Parce que, notamment chez l'enfant le plus jeune, je parle d'âge préscolaire, c'est difficile d'identifier. Ils n'expriment pas nécessairement ce qu'ils ressentent. Est-ce qu'il y a des signaux physiques qui peuvent nous donner des indices?
Oui, effectivement. Souvent, ça va se traduire parce que, justement, quand les enfants sont tout petits, ils n'ont pas les mots, donc c'est le corps qui réagit en premier. Donc, il peut y avoir des maux de ventre. Les enfants vont, même les adolescents vont se plaindre de mal de cœur, d'une boule, une boule dans la gorge. Il peut y avoir plus au niveau du comportement, donc des enfants qui vont plus s'opposer. Donc, derrière l'opposition, on peut voir vraiment une anxiété quand on approfondit. Mais aussi de l'hyperactivité. Hein. Quand on est anxieux, quand on n'est pas bien dans notre corps puis qu'on n'est pas capable de le nommer, ben il y a des enfants qui, le premier réflexe, c'est l'agitation. Donc, ils deviennent agités, ils deviennent hyperactifs. Donc, très souvent, c'est très lié, là, l'hyperactivité à l'anxiété. On les voit souvent très ensemble.
Mm-hmm.
Mais on peut aussi voir des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, par exemple, ou la fuite, hein, la fuite dans les écrans pour les ados, oui, on va voir l'alcool, la drogue aussi. Puis aussi au niveau physique, comme je disais, on peut voir des bouffées de chaleur, des frissons, des tremblements, des tics, des manies aussi qui vont se développer.
Mm-hmm. Parfois, c'est un événement déclencheur, divorce des parents, déménagement, changement d'école. Ça, pour moi, ça me semble assez clair. Ça suscite un épisode d'anxiété. Mais est-ce que parfois, c'est dans la nature de l'enfant?
Oui, bien, tout à fait. Hein. Il y a, comme je disais, dans le développement de l'enfant, il y a des périodes d'anxiété qui se manifestent, mais dépendamment comment ça a été travaillé, comment ça a été accompagné, bien, ça peut se créer, se fixer chez l'enfant et dépendamment de son tempérament, de sa personnalité, un événement stressant comme un déménagement, ou changement d'école, par exemple, mm-hmm. ou séparation des parents, peut jeter l'enfant dans un trouble d'anxiété.
Oui. Il y a une forme d'hérédité aussi, Nathalie, dans l'anxiété chez l'enfant ou l'adolescent?
Oui, tout à fait. Souvent, on va voir un des deux parents qui est anxieux. Habituellement, un des deux l'est. S'il y a de l'anxiété chez l'enfant.
Mm-hmm.
Donc, évidemment, il peut y avoir une interaction entre les deux. Autrement dit, la peur chez l'enfant va alimenter la peur chez le parent qui, lui, va alimenter à son tour la peur chez l'enfant. Et là, si on ne fait pas quelque chose, on crée une anxiété.
Ben, mm-hmm. Si on se sait anxieux, déjà, on peut deviner que c'est un comportement qui pourrait survenir chez notre enfant. On peut être un petit peu plus alerte.
Tout à fait.
Si on a des doutes que le comportement de notre enfant nous fait penser à de l'anxiété, des troubles d'anxiété. Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut lui poser pour mieux identifier l'anxiété chez lui?
Bien, oui, on peut, dans un moment où c'est ouvert à la communication, à la discussion, voir avec lui s'il y a des choses qui lui font peur, est-ce qu'il est inquiet de quelque chose. Donc, on peut aller vérifier les peurs. Puis aussi, le fait de nous parler comme parents de nos peurs peut l'aider, lui, à s'ouvrir. Puis voir que c'est pas parce qu'on est anxieux ou qu'on a des peurs qu'on est tout petit. Parce que même quand on est grand, on en a des peurs. Puis ça fait partie de l'existence, ne serait-ce que la peur de la mort, par exemple.
Mm-hmm. Et en même temps, l'idéal, ce qu'on souhaite en tant que parent, c'est que notre enfant puisse développer par lui-même des stratégies pour fonctionner malgré ou avec l'anxiété.
Oui, oui, idéalement. De toute façon, il y a plusieurs années, l'anxiété n'était pas aussi répandue et les enfants se retrouvaient avec cette anxiété-là. Donc, ils trouvaient des moyens oui. eux-mêmes pour s'en sortir. Aujourd'hui, bien, on est entouré de plein de stratégies possibles. Donc, en thérapie, souvent, on va construire avec l'enfant ou trouver avec l'enfant les meilleures stratégies pour lui. Donc, en alternance, là, on va co-construire ensemble là, des moyens pour l'aider.
Et concrètement, ça pourrait être quoi, ce genre de stratégie-là?
Bien, par exemple, chez les enfants, on sait que le jeu est super important, c'est libérateur, c'est un exutoire pour les émotions de l'enfant. Donc, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. On peut faire en sorte de réintroduire le jeu chez l'enfant. Ça peut être le jeu libre, entre autres, là, mais mm-hmm. ça peut être aussi le dessin. On va regarder, parfois, c'est la gestion des émotions qui est difficile, donc on va essayer de travailler ça, ou l'aider à nommer son émotion, par exemple la colère, donc lui faire vivre, mais aussi le mettre en contact avec ce qui se passe dans son corps. Il y a des exercices de détente qui existent aussi, autant là de la respiration, des exercices de détente plus actifs pour des enfants qui sont plus physiques, qui ont plus besoin de bouger. Et c'est là que je disais co-construire, c'est comme vérifier avec lui qu'est-ce qui est le mieux pour lui, qu'est-ce qui pourra être le plus efficace.
Mm-hmm. Et, bon, chez l'adolescent, tout à l'heure, vous parliez, Nathalie, je trouve ça important de le mentionner, de le renommer, la communication que l'on veut de qualité, que l'on veut ouverte et présente entre un parent et son enfant. On sait, à l'adolescence, c'est un petit peu plus difficile de garder ce contact-là et que ce contact-là soit sain et bien vivant. Si notre enfant vit de l'anxiété pendant cette période-là un petit peu plus sensible, qu'est-ce que l'on peut faire?
C'est certain que on peut pas forcer l'adolescent à communiquer, mais d'établir des limites avec lui sur le temps d'écran, ça va être aidant. Mm-hmm. Hein, on se place pas en interdiction totale sur tout, mais on va plutôt essayer de chercher la collaboration avec l'enfant, avec l'adolescent.
Oui.
Et puis, idéalement, s'il n'est pas prêt à parler, ben de se montrer présent à lui, de lui dire qu'on est ouvert, qu'on est prêt, que quand lui va vouloir, il va être prêt à parler ou qu'il aura le goût, on est là puis on sera à l'écoute. Puis, une des meilleures façons de faire pour les adolescents, c'est de leur montrer comment nous, comme adultes, on prend en main notre anxiété
oui.
ou notre... qu'on fait les démarches nous-mêmes.
En étant soi-même un modèle. Nathalie, parents, on se laisse sur cet outil très concret, justement, cette formation en ligne, formation web sur savoirmieuxêtre.com. C'est une formation que vous offrez aux parents, des parents qui souhaitent comprendre l'anxiété chez leur enfant, peut-être pour eux aussi, et de développer des outils efficaces.
Oui, tout à fait. Puis il y a aussi les livres aux éditions Midi 30.
Oui.
Autant un livre pour les enfants qu'un livre pour les adolescents qui leur est destiné. Là. Donc, Savoir mieux être, celui-là, c'est un site plus pour les parents, mais les autres sont des outils plus aux éditions Midi 30 pour les enfants et adolescents.
On glissera le tout sur notre site. Nathalie Parent, psychologue, auteure et formatrice, merci beaucoup.
Merci.
Bye bye.
Au revoir.
Thank you.
Très belle pièce dirigée par Yannick Nézet-Séguin, Nocturno et au trombone Alain Trudel qui est au bout du fil. Bonjour Alain.
Bonjour.
Vous avez reconnu cette pièce, bien sûr?
Oui.
Alain, on est là pour parler de la musique au service de la santé, de la musique comme outil à la résilience lorsque l'on vit, bon, peut-être une difficulté liée à notre santé. Vous êtes bien placé pour en parler en 2006, diagnostic de cancer. Vous êtes sensibilisé à cette question. Et maintenant, ben, vous êtes en pleine santé, c'est la bonne nouvelle. Et là, pour nous parler de ce sujet, à savoir comment la musique vous a aidé à passer à travers la maladie.
Ben, premièrement, merci de m'inviter à votre émission. Je vous dirais que c'est aujourd'hui, c'est une bonne journée pour en parler parce que je pense que la plupart d'entre nous passent une...
Oui.
C'est pas un très, très difficile moment.
Oui, une nuit difficile.
Moi, j'ai une fille de un mois, puis je sais pas quoi lui dire, mais c'est, elle parle pas encore, là, mais en tout cas, bon, écoutez, c'est complètement débile. Oui, les gens vont avoir besoin de réconfort, puis on le trouve dans la musique. Quand on parle de réconfort, oui, on en parle souvent, réconfort au point de vue musique, mais j'ai aimé le fait que vous avez utilisé le mot résilience.
Mm-hmm.
Parce que c'est ça, c'est pas seulement pour baigner dans un moment où on oublie tous nos problèmes, tout ça, parce que c'est pas vraiment juste ça, la musique. T'sais. C'est, par exemple, si on écoute la musique, là, je peux parler, moi j'aime tous les genres de musique. Je peux vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai écouté beaucoup dans des moments où j'ai eu des problèmes de santé, là. Mais la musique qui parle beaucoup aux gens, puis souvent ils savent pas parce qu'ils en écoutent pas, c'est la musique de Beethoven. Les symphonies de Beethoven. Ouais, symphonies de Beethoven. Ça, les gens, ils vont dire, oui, mais moi, j'écoute pas de musique classique. Je connais pas assez ça. Ça, là, il faut que les gens s'enlèvent ça de la tête. De pas assez connaître ça, là. C'est pas un prérequis pour aimer la musique. Surtout pas la musique classique. Parce que la musique classique, là, c'est un compositeur. C'est une personne qui l'a écrit dans son intimité la plus profonde. Puis qui essaie de parler au monde entier avec cette musique-là, mais une personne à la fois. Ça veut dire que Beethoven, quand il a écrit ça, puis en plus, lui, la plupart de ses symphonies, je sais pas si les gens savent, ils pensent qu'il a écrit la 9e symphonie puis il était sourd, mais il a commencé à atteindre vraiment de sourdité dans sa 2e symphonie.
Mm-hmm.
Fait que là, on parle presque le corpus au complet qui est écrit avec seulement une voix intérieure. Fait que là, on parle de quelqu'un qui était très, très seul, hein, parce que c'est être sourd. Je suis, moi, c'est sûr que je suis musicien, mais pas savoir ce que les gens disent, pas pouvoir participer, difficilement communiquer, c'est très... Je peux même pas m'en imaginer.
Oui.
Donc, pour quelqu'un comme ça, puis lui, je le prends comme exemple parce que, honnêtement, c'est le compositeur, un des compositeurs les plus humains. Il y a une humanité dans sa musique, puis c'est pas juste à cause de l'ode à la joie de la 9e symphonie. Moi, en fait, une des symphonies qui me parle le plus, c'est la 3e, l'héroïque de Beethoven. Mais c'est le message profond d'humanité que lui passe. Par exemple, moi, quand j'écoute cette musique-là, je me sens jamais seul. Mm. Puis quand je dis seul, c'est une question d'être seul à affronter ce que la vie met devant nous, ou seul avec nos problèmes, ou seul avec nos joies intérieures, ou avec les peines à qui on veut pas parler à personne, ou les problèmes qu'on veut pas partager avec les autres parce qu'on sent qu'on va ennuyer une personne ou un autre. Là, on écoute cette musique-là et on dit, hey, je suis pas tout seul à avoir ces problèmes-là. Je suis pas tout seul à avoir ces aspirations-là, puis d'être gêné d'en parler d'un fois.
C'est votre prescription musicale, Alain Trudel, Beethoven. On sait aussi qu'il y a des travaux scientifiques qui ont démontré les effets de la musique sur l'anxiété, sur la douleur. Est-ce que vous avez été à même d'observer, par exemple, Beethoven pendant vos traitements, pendant l'opération également, que ça a pu avoir des effets qui ont amenuisé la douleur chez vous, l'anxiété?
Ben, écoutez, moi, c'est sûr, il y a une dizaine d'années, j'ai été atteint d'un cancer assez fulgurant.
Oui.
Puis la grande différence avec d'autres gens, c'est que les traitements que j'ai dû avoir étaient pendant l'opération, puis tout de suite après. Fait que j'ai pas eu des traitements pendant un 6 mois. C'était ça passe ou ça casse que j'avais.
Oui.
Donc, naturellement, je me sens très, très privilégié que ça ait passé. Hein? Mais c'était comme un genre 50-50 les chances de passer à travers. Donc, premièrement, en tant que musicien, en tant que quelqu'un qui fait de la performance, le côté de notre entraînement qu'on a m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que moi, je me suis préparé comme si j'allais faire une grande audition ou un concert dans un endroit où je suis jamais allé où on fait beaucoup de visualisation. vraiment se visualiser dans le succès. Puis ça, là, c'est, tu sais, pour nous, si je transpose ça à, bon, mettons, ma vie de tous les jours, là, d'arriver dans, je sais pas, au Centre national des arts, à la Place des arts, à la Maison symphonique ou dans d'autres salles que je connais pas en Europe, de dire, OK, je me vois marcher vers le centre de la scène, je me vois saluer, je me vois comme être bien, me sentir que ça va bien aller, qu'il va avoir un succès au bout de ça, que ça va bien se passer, que la musique va bien se transmettre. Mais ça, on peut transposer ça à toutes les phases de notre vie. Donc, moi, quand j'ai dû avoir, c'était une série d'opérations, là. La plus sérieuse de ces opérations-là, ben moi, j'ai fait beaucoup de visualisation comme ça. Et comme les gens qui ont déjà eu des opérations assez sérieuses le savent, c'est jamais le jour qu'on vous le dit. Hein?
Non.
Moi, ça devait être bon dans 3 semaines. Finalement, ils ont dit, OK, c'est demain matin. Wow!
La visualisation que... toute la nuit.
Ben, non, mais c'est parce qu'à force d'enfant, ben, j'en avais fait pas mal avant. Parce que ça faisait déjà quelques mois que j'étais pris dans ce truc-là.
Oui.
Mais vraiment, là, à partir de là, moi, je me suis senti extrêmement en confiance. C'est sûr qu'au Québec, au Québec, au Canada, on a probablement dans les meilleurs médecins. On est dans des mains incroyables. On a les meilleurs chirurgiens, les meilleurs médecins. Je veux dire, c'est contrairement à ce que Donald nous dit aux États-Unis, quand on est malade, on va pas se faire soigner là-bas. On n'a pas besoin.
Alain Trudel, en terminant, j'ai envie de parler de votre implication aussi à la tête de l'Orchestre symphonique de Laval. Vous avez eu envie de redonner avec la SAMS. Vous offrez des concerts en milieu hospitalier, également dans des centres de cancérologie. Donc, vous avez eu envie de redonner, de partager ce que la musique a pu vous faire de bien à des personnes qui en ont de besoin en ce moment.
Oui, ben absolument. C'est une grande partie de notre mission. Moi, je vois l'orchestre comme un citoyen de la ville. Fait que nous, l'orchestre, on joue plus d'une cinquantaine de fois dans les milieux de santé. Moi-même, je suis allé donner des petits concerts privés. C'est sûr qu'au trombone, je peux pas, il y a des endroits où je peux pas jouer, c'est trop fort. Mais oui, moi-même, je vais là. Mais juste pour revenir à votre autre question avant, là, moi, je vous suggère vraiment, là, Beethoven, Mozart, Mahler, puis ce que vous aimez. Ça peut être du Sting, ça peut être du John Coltrane, mais faut pas se gêner pour aller vers des compositeurs puis découvrir. Moi, je pouvais écouter 3 choses en boucle pendant des semaines. Tu sais, j'écoutais la même demi-heure en boucle. Je sais pas pourquoi, pourtant, j'ai beaucoup de choix puis j'ai beaucoup de connaissances musicales, mais c'était ça, faut l'accepter, tu sais.
Oui.
Que quand on va jouer pour les gens, s'ils nous demandent quelque chose de particulier à jouer, ça nous fait plaisir, on le joue. Puis s'ils veulent leur entendre une autre fois, on leur fait une autre fois. Puis c'est agréable, ça apporte ce réconfort-là aussi.
Oui. Et puis, si ça peut aider, c'est complémentaire à de la médication et ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur. Pourquoi pas? Maestro Alain Trudel, merci beaucoup. Salutations à votre toute petite. Faites-lui écouter du Beethoven. Ça pourrait la consoler.
Merci.
Merci. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé, toujours Marianne Paquette pour vous accompagner. Tout à l'heure, je vous rappelle que France Cardinal Remet sera avec moi en studio. Elle est chroniqueuse pour nous parler d'un sujet d'actualité, hein, parce que on est en plein dans la Semaine nationale des proches aidants jusqu'au 12 novembre et on parlera avec elle des questions que soulève la maladie d'un proche, les décisions aussi qui peuvent parfois être bien délicates. Elle pourra nous donner quelques trucs pour tenter de naviguer dans cette période de vie qui peut être assez trouble, disons-le comme ça. On parle, et ce, pour le moment, de rétinopathie diabétique, qui est la complication la plus fréquente du diabète, la cause principale aussi de cécité dans la population active. Et j'ai été assez surprise de lire qu'un demi-million de Canadiens vivent, sont atteints de rétinopathie diabétique. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que l'on prévoit que l'incidence de cette maladie-là va doubler dans les 15 prochaines années. Ça suit un petit peu le diabète, hein, qui est une maladie chronique très, très présente un petit peu partout dans le monde. On parle aujourd'hui de recherches récentes qui pourraient nous aider à mieux comprendre la maladie, à mieux la prévenir également, avec deux chercheurs issus de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Frédéric-Antoine Mallette, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes chercheur en oncologie moléculaire et Mike Safia, chercheur en ophtalmologie. Bonjour, Mike.
Bonjour.
Donc, tout d'abord, j'ai envie de mettre au clair cette alliance entre l'oncologie moléculaire et l'ophtalmologie. Qu'est-ce qui explique cette alliance-là?
En fait, moi, j'ai eu la chance d'assister à une excellente présentation là, du Dr Safia à mon recrutement, justement, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a environ 4 ans de cela. Mm-hmm. Et puis, en fait, j'ai été très excité par ces modèles d'études qu'il nous a présentés sur la rétinopathie diabétique. Et j'ai vu tout de suite certaines liaisons mm-hmm. possibles avec mon propre programme de recherche sur le vieillissement cellulaire. Donc, on s'est posé plusieurs questions, justement, à savoir quels étaient les défauts cellulaires là, qui peuvent survenir dans ce type de maladie-là.
Oui, c'est une façon d'allier les forces et les connaissances aussi, Frédéric-Antoine, pour aller un peu plus loin dans la recherche.
Tout à fait. Utiliser deux expertises totalement différentes, mais complémentaires dans ce cas-ci, pour découvrir, mettre à jour les mécanismes, les causes moléculaires de cette maladie-là.
Oui. Mike, bien sûr, vous êtes le chercheur en ophtalmologie, donc peut-être le mieux placé pour nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que la rétinopathie diabétique.
Oui, donc la rétinopathie diabétique, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, c'est une maladie à très forte prévalence au Canada et dans tous les pays développés essentiellement et de plus en plus maintenant dans les pays en voie de développement où on voit vraiment des... En termes de nombre absolu, c'est vraiment l'Inde et la Chine qui vont avoir le plus grand nombre de personnes atteintes de ces complications liées au diabète. Donc, essentiellement, c'est une des complications les plus prévalentes chez les personnes atteintes de diabète, donc mm-hmm. Soit de diabète de type 1 ou de type 2. Et ça se manifeste souvent après une vingtaine d'années, entre 10 et 20 années de diabète, à partir du diagnostic du diabète. Ce qui se passe, c'est les vaisseaux sanguins dans l'œil commencent à initialement relâcher un peu leur contenu. Donc, on a un gonflement de la rétine qui est cette... membrane de cellules nerveuses en arrière de l'œil qui est responsable à transformer les images que nous voyons en impulses nerveux et transmettre ces signaux nerveux jusqu'au cerveau pour qu'on puisse avoir une image. Donc, ce qui arrive dans la rétinopathie diabétique, c'est en premier lieu les vaisseaux sanguins qui viennent alimenter les cellules nerveuses de l'œil, mm-hmm. Dégénèrent. Et dans une deuxième phase, qui est plutôt celle qu'on a étudiée avec Dr Mallette, il y a une phase de croissance vasculaire pathologique, donc c'est-à-dire okay. maladive, qui va carrément venir détruire certaines parties de la rétine ou de l'arrière de l'œil.
Mais qu'est-ce qui fait, Mike ou Frédéric-Antoine, peut-être plus Mike, que le diabète atteint les cellules de cette façon-là, que cette maladie a tant d'incidence sur les cellules de nos yeux?
Okay, c'est une très bonne question. Donc, essentiellement, la rétine, par poids, c'est le tissu le plus métaboliquement actif du corps. C'est-à-dire, c'est lui qui a besoin le plus de sucre ou le plus de gras pour fonctionner. Mm-hmm. Donc, quand on a une maladie comme le diabète, qui essentiellement est une maladie qui affecte tout le corps, les tissus ou les organes qui ont la plus grande nécessité énergétique vont être les premiers qui sont affectés. Et vu la structure de la rétine ou de l'œil, qui est très délicate, donc la rétine, c'est une fine couche de cellules nerveuses qui est irriguée de façon très organisée par des petits vaisseaux sanguins. Quand on commence à perdre ces petits vaisseaux sanguins, on a cette manifestation de rétinopathie.
OK. Et est-ce que l'on perd la vue de façon soudaine ou ça se passe, avec le temps, ça dépérit avec le temps, la vue?
D'habitude, ça dépérit avec le temps et c'est vraiment une fonction de votre diabète systémique.
Okay.
Donc, c'est-à-dire,
okay.
c'est une fonction. Si vous arrivez à bien contrôler votre diabète, les chances de développer une rétinopathie sont ralenties de façon significative.
Mm-hmm. Est-ce que ça vous a permis de voir Frédéric, Antoine et Mike, c'est que les cellules, oui, vieillissent davantage, sont davantage atteintes, mais elles ne meurent pas complètement, c'est bien ça?
Exactement. Donc, elles répondent à la dégénérescence vasculaire, donc à la réduction d'apport métabolique en induisant ce qu'on appelle la sénescence cellulaire, qui est en fait un vieillissement cellulaire prématuré où la cellule demeure vivante, elle est quand même active. Puis ça va causer aussi beaucoup de sécrétion de différents facteurs, plusieurs que ça va mener à une réponse inflammatoire aussi dans l'œil.
Mm-hmm. Et vos recherches, messieurs, ça vous a amené à quel genre de constat?
En fait, ce qu'on a observé, c'est que si on limitait justement la sécrétion de molécules pro-inflammatoires dans l'œil, en utilisant différentes drogues, donc des drogues qui sont présentement sur le marché, ou en ciblant certaines voies moléculaires bien précises qu'on a pu identifier, donc on peut limiter la sécrétion de certaines molécules par les cellules vieillissantes de l'œil et permettre une revascularisation saine. De la rétine.
Mais ces médicaments-là n'existent pas encore ou ils existent?
En fait, ils existent, mais ils ne sont pas utilisés. Dans le fond, les voies de livraison des médicaments ne ciblent pas en ce moment de façon efficace. Moi, c'est ce qu'on voit, là. Mm-hmm. L'œil et le tissu rétinien. Donc, ce qu'on espère un jour pouvoir développer, justement, c'est des modes de livraison plus efficaces. Oui. De ces drogues.
C'est votre objectif.
Tout à fait.
Ouais.
Puis en fait, on a aussi on a fait des découvertes pour trouver tous les éléments en amont de ce vieillissement. Mm-hmm. Donc, on est en ce moment activement en train de développer des nouvelles formes de traitement pour justement halter ce programme de vieillissement prématuré.
Oui. Vous avez travaillé avec des souris aussi?
Oui, majoritairement. Majoritairement des souris, mais également des tissus humains, des vitrées humains pour confirmer nos découvertes dans la maladie humaine.
Qu'est-ce que ça pourrait changer à moyen long terme sur l'incidence de cette maladie? Parce qu'on n'arrivera jamais à la guérir complètement, j'imagine, à mieux la prévenir, à la ralentir?
Oui, probablement, un peu de tous les trois que vous venez de mentionner. Donc, comme on a dit au début, la rétinopathie diabétique, c'est vraiment une manifestation de la maladie du diabète. Donc, la meilleure façon de prévenir cette maladie, c'est de bien contrôler son diabète.
Ouais.
Par contre, si on a ces séquelles secondaires au diabète, il y a présentement certains traitements qu'on peut déjà utiliser dans les yeux qui vont justement halter la progression de la maladie, mais ils sont très peu efficaces chez certains patients. Donc, quand on pense du médicament le plus utilisé maintenant pour halter la progression, on a une réponse de seulement environ 60% des patients. Donc, il y a tout un 40% des patients qui reçoivent certaines de ces nouvelles injections qui ne répondent pas. Donc, on a de plus en plus d'évidence que les voies que Dr. Mallette et moi ont mis en évidence pourraient justement pallier à ce 40% qui répond de façon inefficace à ces nouveaux traitements.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des tests éventuellement sur des personnes qui vivent avec la maladie?
Oui, absolument. Donc, on est en train de développer ces nouvelles thérapeutiques. Et on pense que d'ici 18 à 26 mois, on devrait avoir les premiers patients qui recevraient les injections avec nos nouvelles molécules.
Mm-hmm. Et dans votre cas, Frédéric-Antoine, parce qu'on comprend très bien ce que ces recherches vont amener pour des personnes qui vivent avec la rétinopathie diabétique et tous les progrès que ça pourra amener, est-ce que vous voyez des résultats dans votre champ de recherche précis en oncologie aussi? Est-ce que ça amène des ouvertures?
Moi, tout à fait. En fait, comme les rétinopathies sont en fait des maladies vasculaires, des défauts des vaisseaux sanguins, donc on pourrait envisager en fait que justement les mécanismes qu'on a identifiés là, causés par les cellules vieillissantes pourraient altérer la formation de nouveaux vaisseaux et pourraient peut-être éventuellement aussi s'appliquer au développement de vaisseaux, dans le fond, pour durant la tumorigenèse, la formation de tumeurs, peut-être aussi la formation de métastases. Donc, comment est-ce que les tumeurs vont développer de nouveaux vaisseaux sanguins pour se diriger vers d'autres tissus? Oui, tout à fait, dans le domaine de l'oncologie moléculaire aussi, il y a un fort impact de notre découverte.
Ouais, comme quoi l'union fait la force. Mais bien sûr, la conclusion, c'est que en arrivant à prévenir la maladie qu'est le diabète, on arriverait aussi à prévenir par la bande, la rétinopathie diabétique. C'est ce que l'on souhaiterait, bien sûr. Hein?
Oui, absolument. Puis surtout dans le cas de diabète de type 2, qui est plutôt une maladie qui est due à un mode de vie.
Oui.
Là-dessus, on a vraiment beaucoup plus de contrôle de façon précoce. Donc, on peut commencer à avoir des signes avant-gardeurs de la maladie et carrément changer son mode de vie et donc prévenir la maladie ou en tout cas ralentir le développement de la maladie.
Oui.
Dans le cas du type 1, qui est une maladie plus auto-immune, donc on a moins de contrôle sur son développement. Mais on peut quand même bien respecter les traitements et donc ralentir la progression des complications.
Oui. Mike Sapia, vous êtes chercheur en ophtalmologie. Frédéric-Antoine Mallette, chercheur en oncologie moléculaire, tous deux du côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemonde. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir. Cardinal Remède, bonjour.
Bonjour.
Semaine nationale des proches aidants. On aurait voulu être plus d'actualité, on n'y aurait pas réussi. Ça se passe du 6 au 12 novembre et on parle justement de cet impact qui peut arriver dans la vie lorsque l'un de nos parents apprend un diagnostic de maladie grave et que l'on sait qu'on vivra probablement cet épisode de proche aidant. En fait, qu'on endossera ce nouveau rôle. La première question, peut-être, qui me vient en tête, qu'est-ce qu'on dit?
Je pense qu'il faut prendre un certain recul, hein, parce que l'expérience de la maladie se vit de façon très personnelle. Hein. Elle évolue dans des contextes de vie qui sont propres à chacun. Alors, quand cette nouvelle-là survient, c'est sûr que ça ébranle tout le monde. Hein. Cette annonce, ça peut donner l'impression de tomber dans le vide, d'être dans des montagnes russes, d'être soudainement... projeté hors de soi-même et puis on a un peu d'espoir, mais on a beaucoup de peur quand ça survient.
Oui.
Beaucoup d'anxiété aussi, je dirais. Moi, je l'ai vécu personnellement avec des membres de ma famille et c'est pas évident.
Et malgré toutes les... Parce que vous êtes infirmière de formation,
oui.
Vous avez évolué dans le milieu de la santé, milieu hospitalier pendant des années. Malgré tout ça, il y a quand même le vertige. Il y a des gens qui n'ont pas de connaissances médicales. Il y a aussi... toute cette compréhension qu'on doit avoir, qu'on voudrait avoir subitement là, pour comprendre, pour le mieux encadrer, accompagner notre parent. Il faut se laisser le temps.
Oui, et c'est ce qu'on va aborder dans cette petite entrevue. Là. En fait, on devient rapidement un proche aidant, hein, tout d'un coup, quand ça arrive. Parce que le proche aidant, c'est une personne qui supporte un être cher, hein, que ce soit un parent, un conjoint, un enfant même, ou un ami, une voisine.
Oui.
Alors... C'est ce qui survient. Alors, des petites conditions facilitantes, finalement, des conseils pour mieux gérer la situation. Mais moi, je suggérerais de prendre d'abord un temps d'arrêt, de reprendre son souffle. pour en apprendre davantage aussi sur soi-même. Parce qu'il faut être calme pour aider l'autre aussi, puis il faut reprendre un peu ses esprits, comme on pourrait le dire, de façon plus générale.
Oui, oui.
Alors, le constat de sa fragilité, mais surtout l'apprentissage de la compassion envers soi-même, envers l'autre, bien sûr, son proche qui est atteint d'une maladie, on dit que ça peut influencer positivement le déroulement futur des événements. Si on se braque, si on devient très anxieux, si on n'accepte pas du tout, ça va être beaucoup plus difficile de cheminer. C'est important d'aller avec la vague, même si la vague est haute.
Oui, hein? Et d'accepter qu'on ne la contrôle pas. On est habitué et on aime contrôler les événements qui surviennent dans notre vie, le travail, la famille. Ben, d'ailleurs, vous parlez d'organisation, que c'est un aspect qui est important lorsqu'on accompagne un proche qui est atteint d'une maladie grave.
Oui, tout à fait. Il faut absolument être très bien organisé.
Je trouve ça intéressant parce que c'est un outil qui est assez concret et j'imagine que ça peut nous donner un peu l'impression d'avoir un certain contrôle, même s'il n'est pas parfait, bien sûr,
oui,
ce contrôle-là.
Oui, mais c'est vrai ce que vous dites. Parce qu'en fait, il y a de multiples aspects reliés à cette annonce-là. Il faut programmer des visites à l'hôpital, ou au domicile, hein. Il peut y avoir des personnes qui viennent visiter à domicile, tout dépendant de la condition de la personne. Alors, il faut se coordonner, dresser des listes de démarches à effectuer, prendre du temps pour planifier son propre horaire pour pouvoir bien insérer les nouvelles actions ou activités qui surviennent. Ensuite, ce qui est important, puis que les gens ne réalisent pas toujours, c'est d'en parler avec l'entourage, et de partager les tâches avec l'entourage. C'est important. Des fois, on n'ose pas. On se dit, oh non, je suis pas pour le déranger, tout ça. Mais c'est important de pas tout porter une personne sur son dos, toute cette charge nouvelle. Alors, puis je pense que les gens, souvent, veulent aider, d'ailleurs. Ils vont offrir de l'aide, puis on dit, oh oui, puis on le fait pas. Mais je pense qu'il faut saisir l'occasion et le faire. Un autre élément qui est très important aussi, c'est de bien s'informer.
Ouais.
Alors, nous, on suggère que la personne soit accompagnée lorsqu'elle va à ses rendez-vous, même si c'est un adulte d'une cinquantaine d'années qui est autonome, parce que une présence, c'est très réconfortant. Mais en plus, c'est important d'enregistrer mentalement sur papier tout ce qui est expliqué, parce que la personne qui est atteinte, elle va oublier nécessairement des éléments. C'est normal, parce que c'est elle là, qui est touchée par l'événement. Puis pas hésiter non plus à poser des questions pour comprendre ce qui se passe puis comment va évoluer la situation. Est-ce qu'il va y avoir des investigations, des tests à passer? Après, qu'est-ce qui va arriver? Dans ce type de diagnostic, comment ça évolue normalement pour ce groupe d'âge-là? Bon, etc. Alors, c'est bien important. Puis aussi, accompagner la personne, mais lui faciliter la prise de décision.
Ouais.
Elle doit prendre des décisions éclairées. Alors, c'est, je pense que la personne qui s'occupe d'un proche peut aider à cette
niveau-là. On n'hésite pas à prendre des notes. On peut se permettre de prendre des notes, de poser des questions, vous l'avez mentionné, mais pour garder en tête, parce que nous aussi, il y a cette espèce d'anxiété-là, de manquer une information ou de ne pas la saisir sur le coup, de penser qu'on a compris,
oui.
Puis après, de retour à la maison,
oui.
Non, j'ai pas saisi ça.
Oui, puis ne pas hésiter à rappeler le centre de santé, parler à quelqu'un. Quand il s'agit d'un diagnostic de cancer, par exemple, souvent, il y a des infirmières pivots, elles nous donnent leur carte, elles nous invitent à communiquer avec eux, alors ne pas hésiter à le faire. C'est très important. Parce
ouais.
que si on ne comprend pas ce qui se passe, si on a des zones d'ombre grises là, qui ne sont pas claires, bien, ça ne va pas bien aller. Il faut vraiment comprendre tout ce qui se passe. Maintenant, il y a un autre élément que j'aimerais aborder, c'est la gestion des émotions avec l'autre personne. On a nos émotions, mais l'autre personne a ses émotions. Alors, on dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon à réagir hein, quand une nouvelle nous inquiète. Alors, tout simplement, demeurer calme, être présent, puis laisser la personne réagir à sa façon. Lui offrir son écoute, la rassurer qu'on sera à ses côtés, qu'on empruntera cette nouvelle route ensemble. Ça, c'est tellement important, de l'accueillir dans ce qu'elle vit. Et pour nous, bien, peut-être essayer de se dire qu'on devrait envisager la vie avec des lunettes qui ne voient que le positif, le mieux possible. Hein? Souvent, des gens vont avoir leur verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. Mais peut-être essayer de se dire, je vais voir mon verre à moitié plein, puis on va miser sur tout ce qui est positif. S'inspirer aussi d'autres personnes qui ont vécu une situation comparable. Oui. Il y a des lectures qu'on peut faire, entre autres, ou on peut connaître quelqu'un qui est passé à travers un moment difficile, puis aller le consulter. Prendre soin de soi, aller chercher du confort émotionnel auprès d'amis, de personnes proches, puis au besoin, si ça ne va vraiment pas, aller consulter un psychologue, c'est correct.
Oui, vous parlez même de groupes de soutien. Ça existe aussi, pour des proches aidants?
Aussi, des groupes de soutien, oui, ça existe, absolument. D'ailleurs, j'ai des ressources que je pourrais peut-être glisser à cette étape-ci. Il y a aidants en réseau. Alors, si on va sur le web, on va le trouver, mais il y a aussi le réseau entre aidants. Alors, l'adresse, c'est www.réseau-entre-aidants.com. Il y a aussi les Petits Frères des Pauvres qui offrent des ressources d'accompagnement des personnes gravement malades ou en fin de vie. C'est bon à connaître des personnes très seules qui n'ont pas trop de moyens. Alors, eux aussi peuvent soutenir. Et dans le cadre de la semaine des proches aidants, il y a un organisme, l'appui pour les proches aidants d'aînés. Alors, www.lappui.org. Alors, eux vont souligner la semaine des proches aidants et ils vont offrir une multitude d'activités. Alors, c'est intéressant d'aller voir là, ce qu'ils vont offrir dans toutes les régions du Québec.
Hein. Et célébrer l'apport des proches aidants à notre société. En terminant, France, il y a bien sûr la personne que l'on doit aider qui est malade, qui vit un épisode difficile, mais aussi le proche aidant qui peut se fragiliser. Son état de santé peut également se détériorer. Il faut être à l'affût. On peut être le proche aidant d'un proche aidant aussi.
Oui, oui.
On reste alerte à quoi?
Alors, la personne va se sentir de plus en plus fatiguée. Ce sont des signes, hein, finalement. Elle va se sentir débordée, dépassée. Elle peut être irritable, impatiente, sensible pour un rien. Elle peut expérimenter des troubles de sommeil, éprouver de l'inquiétude, de l'angoisse, et son appétit peut diminuer. Alors, ce sont des signes là, d'épuisement d'un proche aidant. À ce moment-là, très important d'aller chercher des ressources. Il existe, on peut communiquer avec le CLSC de son quartier, faire un rendez-vous avec un professionnel de la santé, entre autres, là. Et il y a des endroits où la convalescence, ça peut être une convalescence d'une fin de semaine, de quelques jours, qui est possible. Alors, ça peut aider. C'est pas coûteux du tout et ça peut aider à donner du répit à l'aidant.
J'imagine que l'aidant, d'exprimer cette fatigue-là ou l'anxiété à la personne qui l'aide, trouve ça délicat. Est-ce qu'on peut l'exprimer, dire « je suis fatiguée », est-ce qu'on peut prendre une entente, j'ai besoin de répit?
Oui, tout est dans la façon de le dire, hein? Alors, il faut quand même laisser l'espoir à la personne. « Écoute, moi, je t'aime, c'est pas ça. C'est juste que je suis fatiguée. J'aimerais ça prendre quelques jours de répit. » Oui, ça se dit. Oui, oui.
Et comme ça, l'autre personne est également au courant, ne se sent pas abandonnée.
Oui. Non, puis je l'ai observé. Il y a plusieurs personnes qui le font, hein, qui vont faire ça. Puis la personne, dans le fond, elle, ça lui fait un changement. La personne qui est malade.
Elle
vit autre chose là, pendant quelques jours. Parce qu'il y a une routine qui s'installe, qui peut être aussi épuisante pour la personne à aider. Des fois, ça fait du bien aux deux.
Oui. Et on revient toujours à ce livre, votre livre publié aux éditions Multimonde, printemps dernier, France.
En février.
En février, l'hiver dernier, ça va vite.
Oui. Hein?
Quand la vie se fragilise, un guide pour vous et vos proches aidants. On y revient parce qu'il y a plein de ressources. Mm-hmm. C'est un témoignage aussi à la fois de votre vécu. Mm-hmm. Et je le redis, c'est vraiment un très bel outil pour les gens qui vivent.
Je voudrais dire que je vais être au Salon du livre de Montréal.
Oui.
Les 18 et 19 novembre, alors il y aura des séances de signature. Alors, ça me fera plaisir d'accueillir des gens.
C'est un rendez-vous, France Cardinal Remette. Merci beaucoup.
Merci.
On se dirige vers la fin de cette émission. C'est mon moment coup de cœur. J'avais envie de vous parler d'un livre pour enfants, en fait, destiné aux 4 à 7 ans. Ça s'appelle « La ronde des émotions ». J'en ai parlé à mon collègue Jean-Sébastien Laliberté hier. Parce que les émotions chez les tout-petits, c'est complexe. Déjà, chez les adultes, ça peut l'être. Ne serait-ce que, oui, la nommer d'une part, mais la reconnaître, avoir le vocabulaire pour l'exprimer, juste le mot de l'émotion elle-même, c'est pas toujours à la portée du petit. La ronde des émotions, c'est écrit par une dame qui s'appelle Molly Potter aux éditions Scholastique. C'est une enseignante du niveau primaire qui a évolué avec le monde de la petite enfance pendant 11 ans. Elle a été gestionnaire dans le milieu de l'éducation. Elle continue à enseigner maintenant, donc très habile avec cette clientèle. Et c'est ce qu'elle nous dit un peu, les émotions, elles surgissent spontanément chez l'enfant, mais ils ne savent pas les apprivoiser, ils ne savent pas les exprimer. Et un livre, ça peut être un outil pour le parent aussi, pour les enseignants et même pour les éducateurs en service de garde ou en garderie pour reconnaître les émotions, trouver des stratégies pour aider l'enfant, mais pour que l'enfant arrive à s'aider lui-même. Donc, ce livre-là, La Ronde des émotions, ça parle de jalousie, de joie, d'ennui, de timidité, de colère et de bien d'autres émotions. L'enfant, bon, chaque émotion est associée à une page. L'enfant choisit par le dessin quelle page, quelle émotion il a envie de lire, et ça lui donne une panoplie de stratégies, d'outils assez ludiques aussi pour qu'il arrive à exprimer cette émotion, à la reconnaître aussi quand ça arrive. Ça peut être dessiner un nuage lorsque l'on est en colère ou encore prendre de grandes respirations, sauter, frapper pas trop fort dans un oreiller. Vous voyez le genre, La Ronde des émotions. C'est la fin de cette émission. Marianne Paquette au micro, Jean-Sébastien La Liberté à la console, Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagna aux médias sociaux. Et puis, ben, on vous invite bien sûr à nous écrire, entrer en contact avec nous. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bye-bye.